Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des mots de la langue française avec ceux qui les utilisent. Bonjour, bienvenue. Une émission spéciale consacrée à la langue française. Vous savez, cette semaine, c'est la semaine de la langue française en France et autour de l'opération 10 mois, 10 mots sous toutes ses formes. Une opération de sensibilisation à la langue française organisée par le ministère de la Culture. Dans ce cadre, le ministère de l'Éducation nationale organise un concours de création littéraire qui est ouvert aux élèves des écoles, collèges et lycées. Les élèves sont invités à jouer avec 10 mots et à les mettre en scène sur tous les modes, l'écriture, la chanson et le dessin. Ce qui va mettre l'écriture à l'honneur aujourd'hui jusqu'à 13h. Les 10 mots qui ont été choisis cette année pour illustrer la thématique sont les mots arabesques, composé, coquille, cursif, cursive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe et tracé. Aujourd'hui, nous avons un grand témoin, il s'appelle Claude Rouels. Bonjour Claude.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous voir, les auditeurs de Beurre FM vous connaissent bien. Vous êtes professeur de philosophie et traducteur en français, notamment des œuvres de Martin Heidegger et de Goethe. Vous êtes un helléniste. Alors helléniste, on explique pour tout le monde.
Helléniste, ça veut dire quelqu'un qui s'occupe un peu du grec et de la Grèce, mais ancienne, voilà, pas de la Grèce d'aujourd'hui.
Bien, et dans le processus de rédaction et de traduction, le choix des mots est d'une importance capitale.
Capitale, en effet.
Oui, puisque les mots ont vraiment un impact précis. On dit souvent que traduire, c'est trahir.
Oui, mais pas toujours.
Et puis, les mots, on le verra dans cette émission, ont beaucoup de sens.
Ah, les mots sont chargés de sens.
Certains mots ont énormément de... Comment on appelle des mots qui ont plusieurs sens, hein?
Bon, on peut dire qu'il est polyvalent, par exemple.
Nous avons invité deux classes qui ont travaillé sur cette opération. La première classe est la classe de CM1 de l'école Henri Vallon de Bagnolet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qui c'est qui est là? Nous avons Safouane. Bonjour Safouane.
Bonjour.
Tu es le bienvenu, Samuel est avec nous.
Bonjour.
Bonjour Samuel. Faut que tu parles bien en micro, hein, si tu veux qu'on t'entende.
Bonjour.
Voilà, et à côté de toi, c'est Aya.
Bonjour.
Bonjour Aya. Et puis en face, c'est l'école CM2 octobre d'Alfortville. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a Chloé. Bonjour. Ça va Chloé? Bienvenue. Et puis nous avons Nied qui est avec nous. Bonjour Nied. Comment ça s'est passé? Alors, vous avez travaillé chacun sur des mots, Chloé. Comment ça s'est passé?
En fait, on avait des mots à apprendre et après, on a fait... Une sorte, enfin, la directrice est venue dans notre classe et on a choisi ceux qui le récitaient le mieux. Et après, on s'est entraîné sur la définition des mots.
D'accord. Les mots qu'on vous a proposés sont des mots que vous connaissiez déjà?
Je connaissais un tout petit peu le arabesque, mais après, et coquille un peu, mais pas, sinon les autres, je connaissais pas.
Donc, ce sont des mots que vous avez appris pour l'occasion?
Oui.
Que tu sais maintenant parfaitement utiliser?
On va dire ça.
Nied, tu les connaissais les mots quoi?
Non, juste coquille.
Coquille. Arabesque un petit peu?
Non.
Composé?
Non. Oui.
Ouais, composé. Safouane, tu les connaissais les mots?
Non, juste composé et phylactère.
Ah, toi tu connaissais phylactère?
Oui.
Tiens, moi je le connaissais même pas avant l'émission. Tu nous diras ce que c'est tout à l'heure un phylactère?
Oui.
Samuel, tu les connaissais ces mots?
Je connaissais juste composé.
D'accord. Et toi, Aya?
Je connaissais juste composé.
D'accord. Alors, une fois que vous aviez un mot, qu'est-ce qu'il fallait faire comme travail autour, Chloé?
On a pris une feuille et on devait dessiner un dessin avec... on devait faire une coquille sur un mot, donc une erreur. On devait écrire une erreur avec, sur une feuille avec un mot et on devait faire des arabesques autour et des dessins.
D'accord. Chloé, tu as fait quoi, toi?
Inéd,
pardon. Je vais arriver avant la fin de l'émission, tu vois.
J'ai pris une feuille, j'ai fait une faute typographique sur le mot sur le mot cursive et j'ai dessiné des arabesques autour et j'ai fait des dessins.
Puisque le premier mot sur lequel vous avez travaillé, c'est donc ce mot arabesque.
Oui.
Alors qu'est-ce que ça veut dire une arabesque, Chloé, si tu veux le définir?
Une arabesque, déjà, c'est l'étymologie du mot italien arabesco. Ça vient du... C'est des lignes sinueuses entrelacées, par exemple, sur le haut d'une porte ou d'une armoire. Par exemple, sur les diadèmes, par exemple, avec des feuilles entrelacées ou des feuillages.
Alors, Claude?
Oui, bien sûr. Moi, j'aurais, au fond, une question à te poser. C'est pourquoi arabesque? Pourquoi le mot arabesque ? Qu'est-ce que tu entends quand tu entends le mot arabesque ?
Bah, ah oui, il y a le mot arabe, parce que ça vient des lettres arabes.
Oui, ça vient de la façon dont les Arabes, effectivement, font des dessins sans représenter, par exemple, le corps. Donc, ça va être des représentations florales ou des géométriques, tu vois, des formes géométriques. Mais voilà, ça va être ça. Hein, oui. Voilà.
Niette, qu'est-ce que tu entendais, toi, dans le mot arabesque ?
Arabe.
Ouais. Et alors, ça vient pas de l'arabe, Claude ?
Non, mais alors, c'est maintenant, je peux vous le dire, c'est un mot qui a changé de genre. C'est extraordinaire.
C'est-à-dire
c'est d'un modernisme absolu. Eh bien, arabesque, à l'origine, ça veut effectivement dire, puisque via arabesco et donc arabo, donc arabe en italien, jusque-là, tout le monde aura compris. C'est au fond quelque chose qui va signifier la langue arabe. Et à ce moment-là, c'était comme adjectif ou comme mot masculin. Mais le mot masculin, tout ça, ça va très vite disparaître. Et on va dire à l'arabesque, à ce moment-là, ce sera le décor ou les dessins qui vont l'emporter. Et on va passer du masculin au féminin. C'est comme ça qu'on connaît le mot arabesque. Et ça va effectivement désigner un certain style décoratif, une décoration au fond à l'arabe. Voilà
Mais aujourd'hui, c'est un mot masculin ou féminin alors ?
C'est un mot féminin aujourd'hui.
On dit une arabesque.
Oui, on dit une arabesque. Oui.
Alors, comment est-ce qu'on utilise ce mot dans la vie courante, Nied, par exemple ?
Bah, on l'utilise comme une pause de danse. Une pause de danse.
Ah ouais ? Claude, ça peut être aussi un pas de danse ou un...
Oui, bah après, ça va désigner... Alors, au-delà de l'aspect décoratif sur un mur, par exemple, ça peut désigner quelque chose de sinueux, par exemple. Bon, au 19e siècle, à l'époque romantique, ça va désigner quelque chose de sinueux, une ligne au besoin un petit peu capricieuse. C'est comme ça que ça va évoluer, le mot.
Mmh. Moi, pour moi, c'est une série de télévisée. Enfin, une série de télévisée. Vous connaissez ça, Arabesque ?
Non.
Voilà. Ben, voilà. C'est-à-dire que je suis vieux. Vous avez jamais vu Arabesque ?
Non.
Personne n'a vu Arabesque ?
Non.
Bon. Claude, vous n'avez pas vu Arabesque ?
Non.
Ah bon ?
Non, c'est vrai.
Avec la détective ?
Non.
Avec voilà. C'était
j'ai tout raté, voilà.
Bah, vous regarderez Arabesque. Bon, ça risque de ne pas vous plaire. Quels sont les autres sens du mot que vous connaissez ? Arabesque, est-ce qu'il y en a d'autres ? Nied.
Oui. Ça peut être des enjolivements qui sont fantaisie, musicales ou littéraires, comme Claude Debussy qui écrit deux arabesques.
Waouh ! Ah ouais. Et quoi d'autre ?
Bah, un ornement de lignes, de lettres, de feuillages entrelacés.
C'est ce qu'on disait. Vous voyez un autre sens, Claude ?
Non, c'est très bien. Moi, je suis tout à fait ravi de ce que je viens d'entendre.
C'est complet. Alors, un autre mot sur lequel vous avez dû travailler, et là, ce sont les élèves de la classe de CM1 de l'école Henri Wallon à Bagnolet. À Bagnolet, c'est le mot composé. Safouane ?
La définition du mot composé est formée par la réunion d'éléments.
Ouais. Est-ce que tu as un complément, Samuel, à dire à ce que Safouane vient de dire ? Sur le mot, hein, sur la définition. Ou Aya, peut-être. Aya, tu as un complément sur ce que Safouane vient de dire ?
Non.
Composé. Alors, composé, c'est un mot qui a beaucoup de sens, hein, Claude, pour le coup.
Ah bah oui, c'est un mot formé très classiquement du latin, de deux mots latins, donc cum et ponere, posé. Au fond, c'est, si on traduisait littéralement, c'est poser avec. Bon, quand on compose, on pose avec. Bon. Et quand on décompose, on enlève. Hein, c'est vraiment ça. Bon. Donc c'est un mot riche de sens, mais à partir de là, les enfants vont en dire, à mon avis, encore beaucoup plus que moi.
Mmh. Samuel, comment tu l'utilises, par exemple, le mot composé dans la vie courante ?
Pour composer un numéro de téléphone.
Eh oui. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais pour composer un numéro de téléphone ? Comment ça se passe pour composer un numéro de téléphone ?
Sur le téléphone, il y a des chiffres.
Oui.
Et on doit taper le numéro de quelqu'un que tu veux appeler.
Oui.
Pour le téléphoner.
Et donc tu tapes un numéro un après l'autre. Parce que si tu les tapes tous ensemble avec tous tes doigts, ça ne marche pas.
Non.
Ouais. Donc tu vois, il faut décomposer en quelque sorte le mouvement pour composer un tout. Hein, c'est ça. C'est très bien.
Aya, comment tu l'utilises le mot composé, toi, par exemple?
C'est pour former une équipe.
Ouais, ah ouais, par exemple.
Composition d'une équipe, ouais. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait, Claude?
Bah, quand on compose une équipe, est-ce qu'on est entraîneur ou est-ce qu'on est coach? Voilà, ça c'est des questions qu'on pourrait poser.
Mais donc, fan.
Alors, oui.
C'est quoi la question, Claude? Donc, c'est, pour composer une équipe, on est entraîneur ou coach?
Oui, non.
Ça, Fouane, t'as une idée
compose
sur
l'équipe?
Okay. Non.
T'as pas d'idée? Aya, t'as une idée? On est entraîneur ou coach?
Je sais pas.
Samuel, t'as une idée?
Non.
Bon, Claude, c'était quoi la réponse à votre question?
Bah, la réponse, c'est qu'on dit hélas aujourd'hui plutôt coach qu'entraîneur, alors qu'entraîneur est un mot qui était très bien, mais bon.
Tout ça parce que c'est un mot anglophone, c'est pour ça que vous refusez le...
Non, pas du tout. Surtout pas refuser des mots quand ils ont du sens. Mais quand un mot existe déjà et qu'il n'a pas perdu son sens, pourquoi le faire disparaître au fond un mot français au profit d'un mot qui ne l'est pas tout à fait?
Est-ce que quelqu'un voit un autre sens au mot composé, par exemple? Samuel, tiens.
Qu'on fait des gâteaux, par exemple.
C'est-à-dire, Claude?
Bah, on compose avec de la farine, des œufs, etc. On compose un gâteau.
Ah ouais.
Puis alors, il y a autre chose. C'est par exemple, si vous faites un peu de musique.
Oui. Ah,
ouais.
Safouane.
Il y a aussi s'accorder avec quelqu'un ou quelque chose en faisant des concessions.
Alors, il est plus nuancé déjà. Que, ouais. C'est composé.
Oui.
Effectivement.
Compose. C'est très, très bien.
Aya, un autre sens peut-être du mot composé? Ou Samuel peut-être? Je te vois Samuel, je suis sûr que tu as un autre sens.
Faire une composition.
Une composition à l'école par exemple, oui. Et qu'est-ce que c'est qu'une composition alors? Ben, le temps que tu réfléchisses, tu vois, quand tout à l'heure tu disais qu'il fallait composer avec quelqu'un, celui qui compose avec un autre, on va dire qu'il est de bonne composition. En français, tu vois, tu dis ça. Bon, et en même temps, tu vois, c'est pas une composition comme à l'école, mais ça existe, les compositions.
Est-ce que vous l'utilisez, ce mot-là, être de bonne composition? Chloé, tu l'utilises? Tu dis quelqu'un qui est de bonne composition?
Non.
Tu dis plutôt qu'il est cool.
Niette, tu l'utilises?
Non.
Safouane, je suis sûr que tu l'utilises, toi?
Non.
Non. Oh, mince, je me suis trompé. Aya, tu l'utilises aussi?
Non.
Bon. Un autre sens que vous voyez au mot composé? Tiens, Safouane.
Assembler des caractères d'imprimerie pour former un texte.
Très, très bien.
Claude, ouais.
Ah, là, c'est bien. Parce que ça va rejoindre un autre mot tout à l'heure, quand bon. On parle d'imprimerie.
Est-ce que vous voyez d'autres sens au mot composé, Claude?
Non, mais je crois que les enfants, là, ont fait vraiment un très, très beau travail. Hein. C'est bien. Moi, je suis tout à fait fier de ce que j'entends. C'est bien.
Bon.
Ça fait plaisir.
Et un mot qui a plusieurs sens, ça peut être aussi un mot polysémite?
Oui, bien sûr.
Voilà.
La polysémie. Alors, la polysémie, c'est-à-dire la pluralité de signification d'un mot, c'est pas du tout, comme on croit, une faiblesse du langage ou de la langue, parce que c'est justement grâce à elle qu'on peut préciser quelque chose. Vous voyez, quand vous essayez de préciser, vous dites, attends, je vais essayer de te dire, mais puis vous allez prendre un mot, puis après un autre, pour arriver au fond à ce qu'il y a, selon vous, de plus juste à définir. Et donc, vous voyez, la polysémie, ce n'est pas du tout une maladie du langage. C'en est presque, au contraire, un signe de vitalité.
Voilà, l'opération s'appelle 10 mois, 10 mots sous toutes ses formes. Alors, on va en voir 6 ce matin. Merci à Niède de nous avoir rejoints. Merci à toi. Merci, Chloé,
de rien.
D'avoir participé à cette émission. Safouane, à bientôt, hein, pour d'autres sens. Samuel, merci d'avoir été avec nous. Voilà, Aya, tu es faite pour la radio, je trouve. À bientôt. Allez, d'autres élèves dans un instant, et on va continuer à voir d'autres mots pour cette émission spéciale. Alors, du Book Club, je vais dire aujourd'hui, le Club des Livres. Vous êtes sur Beurre FM jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Une émission spéciale du Book Club aujourd'hui, l'émission qui parle des mots de la langue française avec ceux qui les utilisent. Et c'est une émission spéciale, puisque vous le savez, c'est la semaine de la langue française. Et pour terminer cette semaine en beauté, nous avons invité des élèves. Ils sont 25 aujourd'hui dans ce studio. Ils viennent de 2 écoles différentes et ils ont travaillé sur des mots autour d'une opération qui s'appelle 10 mois, 10 mots. Et c'est ces mots que nous vous proposons d'étudier aujourd'hui. Avec nous sur ce plateau, le grand témoin, c'est Claude Rouels. Rebonjour Claude.
Rebonjour.
Voilà, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et traducteur en français des œuvres de Martin Heidegger et de Goethe, et que vous êtes également un helléniste, mais c'est important le grec, parce qu'on le verra dans les mots qui sont proposés aujourd'hui, il y a souvent des racines grecques. Le français, c'est pas une matière à l'école, et c'est pas que cela, Claude, pourquoi ?
Non, parce que le français, d'abord, si on pensait que c'était une matière, on parlerait pas souvent français, quand même, bon, dans sa journée, encore moins dans la semaine. Non, le français, je dirais que c'est au fond l'air qu'on respire. Une langue, c'est vraiment l'air qu'on respire, c'est-à-dire que c'est une manière d'être au monde. Il y a des choses qu'on peut dire dans une langue et qu'on ne peut pas dire dans d'autres. D'où, par exemple, quand on traduit, la question de l'intraduisible, ce qu'on ne peut pas traduire. Bon. Et au fond, c'est quand on arrive à ce qu'on ne peut pas traduire, qu'on sait non seulement où on en est avec sa propre langue, mais qu'on sait aussi où on en est avec la langue de l'autre, parce qu'on ne peut pas purement et simplement l'annexer. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et donc une langue, c'est pas le français, c'est bien sûr que c'est une matière scolaire, mais c'est bien autre chose. Le français, c'est au fond l'air qu'on respire, et faisons que cet air soit le plus respirable possible, bien sûr.
Alors, une opération qui s'appelle 10 mois, 10 mots, autour de l'écriture cette année, je rappelle les mots qui ont été sélectionnés, c'est le mot arabesque qu'on a vu tout à l'heure, composé, coquille, cursif, cursive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe et tracé, des mots qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, hein.
Non.
Alors, nous allons maintenant nous intéresser au mot coquille. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, deux nouveaux élèves sont là. Nous avons Djibril. Bonjour Djibril. Bienvenue. Et Ryan qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour Ryan. Et vous êtes tous les deux de l'école Octobre d'Alfortville. Un autre mot qu'on verra dans un instant également, c'est le mot cursif, cursive, avec voilà, il n'y en a qu'une qui finalement, il n'y a qu'Anaïs qui s'est intéressée au mot. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Bah, c'est un mot qui intéressait personne ? Non ?
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas, il n'y a que toi finalement. Et puis on a demandé à deux autres élèves pour de t'aider. Il y a Fabiola qui est là. Bonjour Fabiola.
Bonjour.
Ça fait plaisir de te voir. Et puis Sakine qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour. Alors, on va s'intéresser au mot coquille. Et pour le coup, coquille, c'est vraiment une expression professionnelle, Djibril. Tu sais pourquoi ?
Par exemple, coquille, ça peut être, on peut l'utiliser quand on travaille, par exemple. Ça peut être une erreur typographique généralement dans les journaux.
Waouh ! Par exemple, dans quoi alors ? Qui fait des coquilles ?
Les journalistes.
Exactement, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une expression professionnelle, parce que les journalistes, notamment ceux qui écrivaient dans les journaux avant, ils faisaient des coquilles. Mais est-ce que tu vois d'autres professions où il y a des coquilles ?
Par exemple, dans les écrivains, des fois ils peuvent faire des fautes dans leurs livres.
Exactement. Et d'ailleurs, souvent dans les livres, même les livres qui sont publiés aujourd'hui, on dit tiens, il y a une coquille. Tu vois d'autres professions ?
Non, j'en vois pas.
Claude ?
Moi, j'aurais une petite question à te poser, puisque comme tu as l'air très savant, je vais en profiter. Qu'est-ce qui corrige les coquilles, par exemple, dans une maison d'édition ? Tu vois, tu es écrivain, tu as écrit un texte, mais pris par la passion, tu as laissé passer une petite faute. Bon, moi, je suis un professionnel chargé de relire ton texte. Comment on l'appelle, ce professionnel ? Un correcteur ? Tu vois, c'est lui qui va corriger les coquilles, voilà. Tu vois, c'est des.
Alors je vous ai apporté. C'était pas une question. À vous lui donner la.
Oui, je lui donne la réponse. La réponse. Oui, parce que comme ça, ça va. Et je vous ai apporté un petit tableau des corrections typographiques qu'on donne aux gens qui font ce qu'on appelle un papier pour les journalistes ou un texte pour les auteurs. Voilà, hein, vous pourrez regarder
tiens,
ça.
Alors, tiens, voilà. Donnez-le à Ryan. Voilà. Alors, expliquez un petit peu comment ça se passe. Donc, quand on doit corriger un texte, Claude.
Ben, oui, pourquoi est-ce qu'on a ça ? Parce que, tu vois, si toi, tu as ta manière peut-être de corriger. Bon. Ton camarade en a une autre. Si chacun a sa manière de corriger, et si moi je suis imprimeur, je ne vais pas savoir comment m'en tirer. Donc il faut qu'il y ait un tableau qui soit le même pour tout le monde dans toute la France, mais ça vaut pour au-delà souvent même de la France. Et ces tableaux de correction typographique, ben, souvent on les remet aux auteurs pour qu'ils puissent corriger ce qu'on appelle les épreuves de leur livre, c'est-à-dire que quand on fait un livre, on va d'abord faire un premier tirage pour relire, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Et quand on relit le premier tirage, ben on va corriger, alors le correcteur corrige de son côté, et on va comparer avec ce qu'a corrigé l'auteur. En général, l'auteur voit moins bien que le correcteur, et tu sais pourquoi ? Parce que l'auteur, il rétablit le sens. Par exemple, si j'ai écrit un livre où il est question des conversation de M. X avec M. Y, ben, je ne vais pas voir qu'à un moment ou à un autre, au lieu de conversation, j'ai écrit conservation. Lui, le correcteur, va le voir.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en France, Claude, tout le monde corrige avec cette même grille.
Tout le monde corrige avec la même grille, tout
voilà,
à fait.
Et que tu as Ryan devant toi. Voilà. Alors tiens, passe là peut-être à Djibril qui va y jeter un coup d'œil. Ryan, est-ce que tu vois d'autres sens au mot coquille qu'on vient d'évoquer ?
Oui, il y a la coquille de l'œuf.
Ouais. Qui est peut-être celui qu'on connaît le mieux, d'ailleurs, hein, la coquille.
Et il y a la coquille Saint-Jacques que nous mangeons.
Est-ce que tu vois un autre sens, Ryan ?
Non.
Alors, quand tu es au bord de la mer, est-ce qu'il y a uniquement des coquilles Saint-Jacques ?
Non.
Quand tu es sur la plage, qu'est-ce que tu ramasses ? Des
coquillages.
Eh ben, il n'y aurait pas un rapport entre coquillage et coquille, dis donc.
Si.
Ah ben oui. Tu vois ?
Il y a d'autres sens hein, à coquille.
Oui.
Est-ce que vous en voyez d'autres, vous, Claude ?
Moi, non, je pense que le premier qui leur est venu à l'esprit, c'est magnifique, c'est la coquille d'imprimerie. Bon, c'est vraiment ça. Mais effectivement, alors, la coquille Saint-Jacques, il y aurait beaucoup de choses à en dire sur le symbole, les pèlerinages chrétiens, etc. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que le mot coquille, quand il apparaît en français, il vient du latin. Alors, d'abord, du latin qu'on parlait pas parmi les gens, si j'ose dire, de tous les jours, ce qu'on appelle parfois le latin populaire ou le latin vulgaire. Et puis, il y avait le latin qu'on appelle classique, mais qui était purement et simplement la remise avec des caractères latins du mot grec, conchylium, c'était le mot grec pour dire coquille.
Bon. Et conchylium.
Conchylium, oui. Ouais. Ce qui a donné une science qu'on appelle d'ailleurs la conchyliologie, qui est la science des coquillages, plutôt des coquilles. La conchyliologie. Mais alors, c'est... On va faire une petite démonstration toute simple. On va supposer que ça, c'est une coquille. Bon.
Montrer à Sakine. Tiens,
je montre ça. Tu vois, alors, on dit c'est une coquille. Et si je dis c'est une coquille, je viens de dire oh, c'est intéressant parce que là, il y a un cercle. Puis là, c'est pas tout à fait pareil. Puis là, il y a de petits dessins. Tiens, je le mettrais bien dans ce qu'on appelait au XVIIIe siècle un cabinet de curiosité. C'était pas encore un musée scientifique. Parce qu'au fond, bon, c'est une coquille, mais qu'est-ce qui vit dans une coquille ?
Sakine, tiens, dans ton micro, qu'est-ce qui vit dans une
qu'est-ce
coquille ?
Qu'est-ce qui vit dans une coquille ?
Rien.
Rien ? Alors, la coquille, elle est comme ça, purement.
Oh, elle pourrait être vide, Claude.
Alors, quand tu retrouves au bord de la mer, souvent, elles sont vides, mais parfois.
Alors, Fabiola, qu'est-ce qui vit dans une coquille ?
Des crevettes ?
Pas vraiment, mais.
Si la coquille est ouverte, la crevette, elle arrive, elle va dans la coquille.
Mais. C'est par exemple, tu vois, un escargot. Puis il y a des petites bestioles, un peu des bêtes un peu molles comme ça, qui vivent dans les coquilles. Et comme elles sont molles et que mou en grec ça se dit malakos, et ben on appelle ça des mollusques. Si t'es pas énergique à l'école, ta maîtresse, ton maître doit dire oh dis donc, vous êtes des mollusques aujourd'hui les enfants. Ça sera pas forcément un compliment.
Elles disent ça à vos maîtresses ?
Oh non, parce qu'elles sont adorables, vos maîtresses. Vous avez de la chance d'ailleurs.
Non, jamais.
Mais tu vois, voilà, et au fond, ben, on s'intéressait à l'aspect extérieur des choses, tandis que quand on s'intéresse à l'animal qui vit à l'intérieur, qu'on appelle donc un mollusque, là, du coup, on fait une démarche de savant, parce qu'on dit, mais comment est-ce qu'il respire ? Comment est-ce qu'il va se reproduire, etc. Et là, du coup, ben, on est dans une démarche de savant, mais alors du coup, ça ne s'appelle plus la conchyliologie, on va parler de malacologie, parce que c'est le côté mou qui va l'emporter sur le côté dur. Mou, pas très joli, mais vivant, par rapport au côté dur, mais qui, au fond, exactement comme des os d'un squelette, tu vois.
Bon. Ryan, tu as compris sur la malacologie ?
Oui.
Tu pourras faire une conférence l'année prochaine sur la malacologie ?
Oui.
Bon. Djibril, tu as vu la grille de correction ? Est-ce que tu as une question à poser à Claude ? Sur la grille de correction.
Ça te semble compliqué, hein ?
Un petit peu, mais comment les correcteurs, ils peuvent tout voir avant, je comprends, ils n'avaient pas d'ordinateur, mais maintenant ils ont un ordinateur, il y a une correction automatique.
Oh bah oui, mais tu sais, la correction automatique, ça ne va pas empêcher les coquilles, bien loin de là. Oh là, alors là, je vais te dire que...
Il y a de plus en plus de fautes, justement, à cause de la correction automatique.
Parce que, tu sais, si, par exemple, il y a un mot où on a besoin d'un accent circonflexe, mais si le mot, c'est « du », et que « du », ça peut être aussi « donne-moi du pain », l'ordinateur, il ne va pas faire la différence.
Il mettra l'accent.
Et la coquille, elle va exister, tu vois.
Aya, Anaïs, pardon, c'est toi qui as travaillé sur le mot « cursif »,« cursive ». Alors, explique-moi un petit peu ce mot que peu de gens connaissent, en fait.
Cursive, alors, cursive est une écriture rapide, bref, écrite à la main. Quand on tape à la machine, ce n'est pas une écriture cursive, mais une écriture en script. Cursive est d'étymologie latine, curare, c'est un adjectif. Et c'est tracé à main courante.
Claude, c'est complet. Hein. La définition que donne Anaïs est déjà très très complète.
C'est complet. Moi, j'aurais au fond une question à poser, mais je vais la poser à Anaïs, puisque tu viens d'employer le mot, mais d'autres de tes camarades l'ont employé avant. Puis, comme je suis un peu timide, je n'osais pas poser la question. Mais vous avez tous un petit peu parlé d'étymologie. Mais qu'est-ce que ça veut dire étymologie? Quelle est l'étymologie d'étymologie?
Sa étymologie, ça veut dire que ça vient de cette langue-là, en particulier.
Alors, Sakine, qu'est-ce que ça veut dire, le mot étymologie, tu sais?
Non.
Non. Fabiola?
Je ne sais pas, non.
Eh bien, si je vous disais...
Peut-être on demande à Ryan et... Ryan, Djibril, c'est ce que ça veut dire, étymologie?
Non.
C'est l'origine du mot?
Oui, c'est l'origine du mot. Et alors, ça vient d'un mot grec. Et comment tu as écrit étymologie? Ça, c'est pas simple, hein, comment tu écris étymologie. Si tu avais à épeler le mot étymologie, suppose que je ne sache pas l'écrire. Allez, je vais
l'écrire. Ryan a l'air de savoir un petit peu.
Alors, vas-y. Alors.
H.
Ah oui, mais tu commences. Ah non, il n'y a pas de H. Ça, ça commence mal. Alors, et accent aigu, après. Et ti.
T.
T, oui, après. I. Ah non, c'est pas vraiment un I, c'est.
Y.
Tiens, mais dis donc, on va en rester là. Un Y. Eh bien, un Y, c'était une lettre qu'on peut appeler en grec un petit upsilon. C'est-à-dire, quand il y a un Y dans un mot, est-ce que ça ne voudrait pas dire que le mot vient du grec? Eh bien, oui.
Et donc, ça, c'est à chaque fois qu'il y a un Y dans un mot...
Très souvent, oui, ça peut... Voilà, à 99%, parce qu'il y a quelques exceptions, mais à 99% des cas, quand vous avez un Y dans le mot vient du grec. Ça, c'est déjà, vous voyez, sans avoir fait de grec, vous savez déjà ça. Mais c'est tout simple, il n'y a pas... C'est un côté Sherlock Holmes, mais c'est simple, hein, voilà. Donc, étymologie, c'est l'origine des mots, parce qu'on pensait... Étymon, ça voulait dire vrai, exact. On pensait, à l'époque, que ce qui était le plus ancien, le plus lointain, c'était... Vrai, c'était l'origine des choses, était la vérité aussi des choses. Voilà. C'est pour ça qu'on emploie le mot étymologique, qu'on écrit donc au fond sans H, ni au début ni au milieu. Mais voilà.
Merci à Fabiola, Sakine, Anaïs, Ryan et Djibril d'avoir été co-animateurs. Vous avez bien bossé les enfants. Et puis tout à l'heure, on va retrouver d'autres élèves hein, qui ont travaillé comme vous à des mots, hein, puisque c'est l'opération qui s'appelle justement 10 mois, 10 mots. C'est le Book Club du Beurre FM jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec un Book Club spécial, vous savez, aujourd'hui autour de cette opération 10 mois, 10 mots, on a invité deux classes qui ont travaillé sur ces mots. Et ce sont les enfants qui sont à l'honneur aujourd'hui avec vous. Ils sont 25 sur ce plateau. Et les enfants, je vous rappelle que vous repartirez chacun d'entre vous avec une boîte de jeu qui s'appelle Défi Mots. Vous pourrez jouer en famille et défier votre famille en apprenant le français tout en vous amusant. Et puis, chaque classe repartira avec le Petit Larousse 2019. Avec nous, Claude Ruels, qui est avec nous, professeur de philosophie, traducteur en français des œuvres de Goethe et de Heidegger. Vous êtes également helléniste. Et vous avez distribué d'ailleurs, Claude, l'alphabet grec aux enfants.
Oui, je leur ai distribué l'alphabet grec. Quand on parle d'alphabet... on parle des deux premières lettres, justement, de l'alphabet grec. Alpha, bêta.
Et après, le reste, alpha, bêta...
Gamma, delta, etc.
Il y en a combien ? Il y a combien de lettres dans l'alphabet grec ?
Ah, il y en a une de moins qu'en français.
25. Bien, il y a des mots pour vous d'ailleurs. Vous allez voir dans les nouveaux mots, Claude, qu'on va voir dans un instant. Donc, nous ont rejoint sur ce plateau deux groupes d'élèves qui sont de la classe de CM1 de l'école Henri Vallon à Bagnolet. Alors, vous avez à gauche, vous avez Kélian. Ça va, Kélian ? Kéliane, bienvenue. Tiens, regarde.
Bonjour.
Bonjour, Kéliane. Redouane.
Bonjour.
Bonjour, Redouane. Et puis, nous avons Sel Sabil qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et toi, tu n'as pas du tout le trac ?
Non.
Pourquoi ? Tu as déjà fait de la radio toute ta vie, en fait. C'est pour ça. En tout cas, ça ne t'impressionne pas, la radio. Pas du tout. Alors, en face, nous avons Anis.
Bonjour.
Bonjour, Anis. Aïcha.
Bonjour.
Bonjour. Et nous avons Maïssam.
Bonjour.
Bonjour Maïssam. Alors vous avez travaillé chacun sur deux groupes de mots qui sont différents et des mots qu'on utilise peu. Alors par exemple le mot logogramme, Claude, le mot logogramme qu'on utilise beaucoup dans sa forme réduite mais très peu dans sa forme développée.
Oui, c'est vrai que c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, qui est composé effectivement déjà de deux mots grecs, mais c'est vrai que c'est vraiment... Moi, je sais que c'est un mot que je n'utilise quasiment jamais, par exemple.
Alors, bon. Maïssam, quelle est la définition du mot logogramme, par exemple ?
C'est un talisman dans... C'est une bulle dans les bandes dessinées.
Est-ce que tu es sûr d'avoir bien compris la... Enfin, entendu la question.
C'est parce que c'est moi qui suis pas sur le bon groupe. Alors,
voilà.
Logogramme, c'est
voilà,
en face.
Voilà,
alors, Kéliane.
Voilà.
C'est un dessin correspondant à une notion, à une suite de sons dans les écritures dites à un diagramme comme les hiéroglyphes et les caractères chinois.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, par exemple, Prédouane, à ce que vient de dire Kéliane ? Non. Alors, celle Sabine, sur la définition du logogramme, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Non.
Alors, Claude, sur la définition ?
Non, je crois que les enfants, là, encore une fois, ont dit ce qu'il fallait dire. Moi, j'aurais juste deux petites choses à rajouter. 24 lettres et pas 25 pour l'alphabet grec, mais ça, c'est de tout à l'heure. Mais en revanche, quand on dit hiéroglyphe, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, hiéroglyphe ?
C'est les anciennes Kéliane. Écritures qu'on utilisait avant.
Oui, mais qui les utilisait ? Dans quel pays ?
Alors,
oui.
Celle Sabine.
C'est les Chinois. C'est une écriture maya aussi. Et c'est une écriture aussi égyptienne.
Voilà.
Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce qu'a dit celle Sabine ? Les enfants ? Anis ?
Non.
Non ? Alors,
Oui, le hiéroglyphe, c'était une écriture qui concernait... On ne s'en servait pas tous les jours. Ça concernait le moment où on parlait des dieux. Hieros, ça veut dire sacré, qui a donné en français un mot dont on ne sert pas très souvent, qui est le mot hiératique, qui veut dire quelque chose, par exemple, qui a une pose comme quelque chose d'un peu sacré, comme quelque chose de très, très beau, très fort, on va dire ça, bon, hiératique. Mais sinon, hiéroglyphe, c'est une écriture qui concernait, au fond, essentiellement le rapport des hommes au sacré, au dieu, voilà, pour hiératique. Hein.
D'accord. Hiéroglyphe, on connaît bien les hiéroglyphes égyptiens, mais...
On les connaît depuis Champollion, parce que ça fait pas si longtemps, au fond, qu'on les connaît. C'est-à-dire, il y a eu des milliers d'années où cette civilisation savait plus ce qu'elle voulait dire, y compris du temps des Grecs. C'était très ancien, déjà, vous voyez.
Est-ce qu'on a des traces des hiéroglyphes mayas, par exemple ?
Ça, je ne sais pas. Sûrement, oui, mais je ne sais pas. Ça, l'écriture, là, ce qui concerne les mayas, je suis tout à fait d'une ignorance
Alors,
totale.
Ce mot logogramme, c'est un mot super récent ?
Oui, c'est un mot récent. C'est un mot récent. C'est un mot récent qui est formé de logos, la langue, mais aussi gramma, qui veut dire au fond la lettre, mais aussi le caractère. Bon. D'où idéogramme. Hein, tout à l'heure, tu parlais d'idéogramme, c'est ça. Un caractère va correspondre à une idée. Bon. Au fond, on s'en sert aussi pour ce qu'on appelle aujourd'hui le langage des logos, par exemple. Bon, voilà.
Qui c'est qui l'a inventé, ce mot ?
Bon, il est d'invention, alors on pense que certains disent que c'est un poète serait presque une histoire belge, mais vrai, un poète belge contemporain de langue française qui s'appelait D'Autremont, qui aurait, Christian D'Autremont, qui aurait forgé ce mot. Bon, maintenant, encore une fois, c'est le sens qu'il a aujourd'hui n'est plus tout le sens que lui conférait ce poète surréaliste.
Christian D'Autremont. Alors, logogramme, est-ce que quelqu'un peut faire une phrase avec le mot logogramme? Vas-y, Celsabile, par exemple.
Les Chinois utilisent encore le encore logogramme, les logogrammes.
Très, très bien.
Alors, Edouane.
Les Chinois savent dessiner des logogrammes.
Très, très bien.
Super. Kylian.
Les CM1 ont un livre qui parle des logogrammes.
Oh, bah vous êtes rudement savant, CM1, dis-donc. Hein. Eh bah, bravo. Bravo, bravo.
Et puis après, donc il y a la forme, donc il y a la forme courte, hein, logo. Donc là, logo, par exemple, Sabine, tu sais faire une phrase avec le mot logo. Par exemple, tu vois ce que tu vois là-bas, c'est le logo de Beurre FM, par exemple. Voilà, partout autour de vous. Quelqu'un connaît le mot logo? Alors, Kylian, dis-moi.
J'ai le logo du Barcelone sur mon sur mon gilet.
Redouane. Surtout sur vêtements, par exemple. Allez, on termine avec le dernier mot. Alors, un mot, franchement, qu'on n'utilise pas souvent, c'est le mot phylactère. Alors, phylactère, qui veut bien nous dire ce que c'est? Alors là, cette fois-ci, Maïssam, oui. Tu peux y aller.
Phylactère, ça veut dire, c'est une bulle dans les bandes dessinées.
Aïcha, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire Maïssam? Pareil, tu dis pareil?
Oui.
Anis?
Ça sert à faire communiquer les personnages?
Oui, ça dans les bandes dessinées, mais l'origine du mot, au fond.
C'est un talisman de l'Antiquité grecque.
Ben oui, voilà. Mais c'est ça. Parce que, tu sais, même bande dessinée, c'est relativement récent comme expression. Quand moi j'avais votre âge, on parlait d'illustré, on parlait pas de bande dessinée.
C'est vrai, d'illustré, ouais.
D'illustré, oui.
Il n'y avait pas d'album de bande dessinée.
Non,
hein,
il y avait des albums de Spirou, Tintin, mais c'était, c'était pas aussi fréquent qu'aujourd'hui.
Alors, Anis, tu dis que toi, c'est un talisman. Oui. Claude, c'est un talisman qui date de quelle époque?
Oh ben, ça remonte donc au monde grec, donc ça correspondait aussi à ce qu'il y avait avant les Grecs, mais c'est effectivement un talisman, une amulette. Et au fond, ce mot va aussi passer du monde grec au monde religieux. Bon, ça, on va dire là où on mettait des reliques de saints, par exemple pour les catholiques. Et puis, ça va finir donc sous l'aspect de ce qu'on rappelait fort bien les enfants, de bulles pour les bandes dessinées. Bon, mais il faut aussi savoir que phylactère, c'est un mot d'abord PHY. Oh là, on est effectivement là dans le grec, mais c'est le grec tel que on le revoyait au XVIe siècle, à la Renaissance, parce que c'est un mot qu'on a refait, c'est ce qu'on appelle en langage savant un peu une réfection. Et le mot phylactère, en fait, au XIIe siècle, on disait philatière, beaucoup plus simple, parce que on avait déformé le mot, parce que la langue vivante, elle déforme. C'est, phylactère, c'est au fond un mot un peu savant. Quand vous parlez de phylactère, vous employez un mot un petit peu savant.
D'accord, mais quel est le rapport, s'il y en a un, entre phylactère et bulle, Claude?
Ben, si, parce que c'était tout simplement et d'ailleurs, on retrouverait presque ce qui a été dit avec logogramme, c'est pour ça que c'était bien de faire les deux mots en même temps. C'était, au fond, la petite légende qui, autrefois, était sous le dessin, et puis qu'après, on a inclus dans le dessin avec un trait qui permettait de distinguer. Et alors, les bandes dessinées, parfois, dans les titres, peuvent ne pas comporter de phylactère. Voilà le titre d'une bande dessinée, des Tuniques bleues. Et alors, c'est vraiment le titre, mais avec une erreur près, une coquille près. Et je vais la faire passer aux enfants, puis les enfants vont...
Alors, celle Sabine, par exemple, tu vas me dire, allez, si tu vois la coquille, où est-elle?
Il y a quelque chose qui... Voilà. Tout à l'heure, Philippe, qui connaît très bien cette série, a tout de suite trouvé, je peux vous le dire.
Alors, je ne sais pas si les enfants le lisent encore, cette série-là. Est-ce que vous voyez la coquille sur la couverture qui est en train de circuler, la couverture d'un album qui est fictif.
Non, c'est pas sur le... Ne cherchez pas la coquille, c'est pas une coquille typographique. C'est, quand je dis une coquille, c'est une erreur volontaire, enfin, c'est bon. C'est une tête qui est mise à la place d'une autre. Allez, je vous aide.
Allez, Claude, allez-y, donnez la langue. On donne notre langue au chat.
Ben, on montrait aussi à l'autre groupe d'enfants pour que voilà. Ce soit l'égalité parfaite et républicaine.
Est-ce que ça, vous avez vu quelque chose, Kélian? Ouais. T'as vu quelque chose qui t'a alerté?
C'est le bleu.
Alors, ah ouais, Kélian dit que c'est le bleu. Alors, Anis, tu vois quelque chose qui te parle?
Oui, c'est parce que ils ont la personne avec qui.
Ah, je me demande si Anis n'a pas trouvé.
Il a peut-être trouvé.
Ah, je vois qu'il y a Aïcha.
Oui, vous êtes en train de trouver, oui.
C'est une personne qui a un peu le trac.
Qui
a un peu le trac.
C'est une personne. On a changé la tête du personnage principal. Et alors, il aurait la tête de qui, ce monsieur-là?
Je sais.
Eh bien oui, c'est ma tête. Voilà, c'est dans une maison de bande dessinée où on s'était un jour amusé à ce petit tour de passe-passe, voilà.
Est-ce que vous l'aviez reconnu? Est-ce qu'il est bien fait? Aïcha, tu trouves qu'il est bien fait?
Oui.
Ouais. Maïssam?
Oui.
Pas sûr, ouais, ouais. Anis, tu l'aurais reconnu?
Oui.
Maintenant que tu le sais. Kélian, tu l'aurais reconnu?
Claude? Non.
Non. Redouane, tu l'as reconnu? Non.
C'est
Sabine, tu l'as reconnu?
Mais ce qui veut dire aussi, vous voyez, qu'il faut parfois vous méfier des photographies où il peut y avoir des montages. Donc, méfiez-vous toujours des photographies où il peut y avoir des montages. Soyez toujours très, très prudent, très critique. Il ne faut pas prendre certaines photographies comme ça.
Alors Claude, on remercie les classes de CM1 de l'école Henri Vallon de Bagnolet et les classes du CM2 de l'école Octobre d'Affortville d'avoir travaillé sur ces mots, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir accompagnés, de nous avoir partagé leur savoir avec nous. Je rappelle les enfants que chaque classe repart avec une illustration et un exemplaire du Petit Larousse 2019 et que vous repartiez tous chacun avec cette boîte défi mots avec laquelle vous pourrez jouer chez vous, en famille. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Selsabil, merci Redouane, merci Kéliane.
De rien.
Voilà, merci Anis, merci Aïcha, merci Maïssam, merci Claude.
Merci Philippe et merci les
enfants. Merci les enfants d'avoir été avec nous. On vous applaudit. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous souhaite un bon week-end sur Beurre FM. Bon week-end à tous.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.